Alors, merci de tourner dans vos Bibles en 1 Timothée. Donc, le premier épître de Timothée. Un nouveau chapitre. Donc, trois livres qui vont ensemble, qu'on appelle les épîtres pastorales. Épître, donc, qui veut dire lettre pastorale, parce que c'est adressé à des responsables des églises. Il y a donc Timothée, il y a Tite. Et il y a les deux premières lettres adressées à Timothée, troisième à Tite. Mais contentons-nous aujourd'hui juste de notre lettre pour ce soir. C'est écrit à peu près en l'année 64, donc après Christ. Notre lettre est écrite entre son premier et son deuxième emprisonnement. C'est-à-dire qu'il a déjà... Il a été déjà mis en procès devant l'empereur Néron, qu'il a trouvé innocent, qu'il a relâché, et on attend donc un deuxième procès. Mais le deuxième procès, qui est à peu près 3 ans plus tard, c'est le procès qui clôturera en fait le ministère de Paul. Et aussi, cette même année, on pense que c'est là où l'apôtre Pierre aussi trouve la mort. Alors, c'est un moment très important dans l'Église. Bien sûr, ils n'étaient pas au courant. Eux, ils espèrent vivre encore plus longtemps. Mais ça nous parle parce qu'on n'est pas encore là au niveau des grandes persécutions. Sachant que Néron a entendu le témoignage de Paul. On est sûr et certain qu'il a entendu la doctrine chrétienne. Les choses ne peuvent plus aller en arrière. Cette lettre est donc écrite à un jeune homme. Un jeune homme que Paul il connaît très bien. Un jeune homme qui s'appelle Timothée. Et nous trouvons Timothée pour la première fois en Actes chapitre 16, verset 1. Où nous lisons... En parlant de Paul, il parvint ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à suivre Paul. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui. Il le prit donc et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Alors, c'est quelque chose un peu extraordinaire, surtout pour Paul, qui s'est beaucoup battu pour que les païens ou les non-Juifs ils soient bien confortables avec le fait qu'ils ne soient pas Juifs et qu'ils ne sont pas circoncis. Or, avec Timothée, puisque sa mère était juive, c'était toute une autre chose. Et comme lui, il voulait donc enseigner cet homme pour qu'il soit comme les juifs avec les juifs, comme les non-juifs avec les non-juifs, afin de gagner le plus grand nombre. Il était dans une belle position d'influence pour l'Évangile. Et donc, ce qui est très beau chez ce jeune homme, c'est qu'il subit l'opération. Et ça, ce n'est pas une chose facile. Mais il le fait. Et il le fait, on peut très bien imaginer, parce qu'il aime Paul. Alors, depuis ce moment-là, il suit Paul partout. Et c'est là, en fait, où Paul, il le forme, il le prépare pour le ministère. Et nous lisons beaucoup sur la vie de Timothée dans les autres épîtres du genre... Timothée a été envoyé chez vous. Timothée, il est laissé là. Timothée, il va quelque part. Timothée, il devient en quelque sorte vraiment un assistant pour Paul, mais il l'aide. Et ce qui est merveilleux, si vous vous souvenez de ce que nous avons lu en Philippiens, c'est que Paul dit de Timothée qu'il n'y a personne comme lui, qu'il a la même mentalité, ce même cœur pour l'Évangile. Et donc, il y a une place très spéciale dans le cœur de Paul pour cet homme, Timothée. Nous savons aussi que la mère de Timothée était croyante. Nous savons que sa grand-mère l'est aussi. Mais il y a un silence un peu fort du côté de son père. On ne sait pas. Mais nous savons, grâce à 2 Timothée, chapitre 1, que c'était donc l'influence de sa mère et de sa grand-mère. Et leur prière surtout qui l'ont amené à la foi. Alors le temps passe. Nous pensons que l'église d'Éphèse a été implantée par Priscille et Aquila. Paul, il les rejoint. Il y avait une grande œuvre en Éphèse. Et on parle d'Éphèse parce que c'est là finalement où Timothée a été envoyé par Paul. Éphèse était une grande ville qui avait à peu près 400 000 habitants. Pour une ville de l'époque, en Grèce, c'était énorme, très important. Il y a toujours des ruines d'une très grande stade à Éphèse qui montrent qu'ils avaient des capacités énormes. Grande affluence et influence. Aussi, dans cette région, Éphèse était très connue parce qu'il y avait un culte à Diane. Diane qui est donc la déesse de l'amour. Il y avait, bien sûr, on peut très bien imaginer le genre de culte en rende à Diane. Donc très somptueux, très immoral. Et ça a été mené par des prêtresses, plutôt, donc des femmes. Alors, ceci dit, cette église bénéficie de plusieurs grands personnages dans le monde chrétien. Aquila et Priscille, Paul, Timothée, Apollos et finalement l'apôtre Jean. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que l'apôtre Paul dit juste avant de quitter les anciens à Éphèse pour la dernière fois. Il leur parle de combien il les a avertis, il les a enseignés tout. Et en chapitre 20 des apôtres, acte chapitre 20, verset 25, Paul dit ceci. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. Car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé le dessein de Dieu. Donc, je suis quitte, en quelque sorte, je vous ai enseigné toute la parole de Dieu. Vous connaissez tout maintenant. Alors, prenez donc garde. C'est lié. Puisque vous connaissez tous, maintenant, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Autrement dit, maintenant que vous êtes bien formés, soyez sous vos gardes, parce que il y aura donc des faux frères qui vont intervenir, ils vont glisser parmi vos rangs et il va maintenant commencer à s'aimer des mauvaises doctrines. Faites très attention. Et il est intéressant que Paul, il envoie Timothée en mission, une mission spécifique vis-à-vis de ça. Ça, c'est notre premier indice de quoi cette lettre va nous parler. En fait, cette lettre parle beaucoup de l'Église, mais pas comme en Éphésiens, l'Épître d'Éphésiens, où ça parle de l'Église globale. Église avec un E en majuscule. Non, en 1 et 2 Timothée, enfin surtout en 1 Timothée, ça parle de l'Église locale. une église plutôt spécifique, mais il y a des généralités qui, des choses que Paul a appris du Saint-Esprit, qu'il donc il donne à Timothée pour que Timothée il a une idée de comment gérer une église, et pas seulement l'église d'Éphèse, mais une église. Donc des généralités importantes, des principes pour une église en particulier. Parce qu'il y a donc un Seigneur qui est la tête de toute l'église, et donc c'est lui qui dit ce qu'il faut faire dans son église. Alors, avec tout ceci en tête, commençons notre lettre. Verset 1, Paul, apôtre de Christ Jésus, par l'ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Christ Jésus, notre espérance. À Timothée, mon enfant, légitime en la foi, grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Première chose, c'est cette autorité qu'il montre. Il y a à la fois tendresse et autorité. C'est frappant, parce que d'un côté, il dit « mon enfant, légitime dans la foi ». C'est pour ça, justement, qu'on pense que c'était Paul qui a amené Timothée à la foi. Mais « mon enfant », on ne dit pas ça à tout le monde. Donc, il y a vraiment cette relation très tendre. Mais c'est quand même une lettre officielle, si vous voulez, mais officielle de la part du roi des rois. C'est Paul, donc, qui doit adresser certaines choses, et ce n'est pas simplement de la part d'un père, non, maintenant, c'est au-dessus, en fait, c'est de la part du Père céleste, qui parle au travers de son apôtre, qui est animé par le Saint-Esprit. Il a l'ordre de Dieu de parler ainsi. Et donc, c'est bien de garder ceci en tête. Parce que comme ça, ça nous donne la capacité de faire la part des choses entre ce qui est simplement une suggestion, un conseil d'un ancien envers son collègue, et puis un apôtre de Dieu qui parle à un jeune pasteur. Et ainsi, même s'il parle justement à un pasteur, enfin si vous voulez, un ancien, un responsable d'église, ce qui est important ici, c'est que il y a des choses, des généralités qui touchent tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à être responsable de l'Église, certes, mais tout le monde est appelé à un ministère. Et dans une Église, il y a donc un responsable, il y a des gens qui font des choses, peut-être le dimanche ou le mercredi soir, par exemple, il y a des activités. Mais ne vous trompez pas, vous travaillez au moins 40 heures par semaine dans le monde. Vous avez des familles ailleurs aussi. Voilà votre ministère. Et voilà où Dieu veut que vous travailliez et que vous fassiez le plus grand impact. Donc, ces choses-là peuvent vous aider aussi dans votre ministère, là où vous êtes, que vous soyez équipé pour aller et continuer ce qui a été commencé. Donc, des choses, oui, certes, pour ceux qui sont en plein temps dans le ministère, mais pour tout le monde. Comme je t'y exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des faibles et des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Là, vous avez le fil conducteur. C'est que Paul, il exhorte Timothée à rester à Éphèse parce qu'il y a des gens qui enseignent des fausses doctrines. Exactement comme Paul a dit en quittant les anciens d'Éphèse. Et on rejoint exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans l'Église, qui sont en train, maintenant à l'Écriture, en train de dire et de proférer des fausses doctrines. Donc Paul, il est en train de former et d'encourager Timothée, justement, à contrecarrer ces fausses doctrines et ces choses fausses qui se passent à l'intérieur de cette Église. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le pauvre Timothée, qui doit être exhorté de rester? Il est certainement découragé. S'il faut que Paul l'exhorte à rester, c'est qu'il est tenté de partir. Ça, c'est une autre chose à garder en tête. Il est très probable que Timothée est un peu délaissé. Ça aussi est une très bonne exhortation aussi, je crois que pour nous tous, là où vous êtes. Parce que parfois, et surtout dans le monde, surtout dans l'Église, en fait partout, hein, on rencontre de l'opposition à toute œuvre bonne. Quoi que vous fassiez, si vous vivez pour le Seigneur, si vous voulez impacter votre milieu pour l'Évangile, si vous travaillez dans l'Église, si vous travaillez en dehors de l'Église, il y aura de l'opposition. Mais lorsque l'opposition vient, et c'est un peu comme le papier vert, ça commence vraiment à gratter sur les nerfs et ça commence vraiment à vous rendre trop sensible jusqu'au point où vous voulez vous emmailler. Qu'est-ce qu'il faut? Parfois, il faut rester. Rester, sachez que le Seigneur est bon et que vous servez à ses fins pour son plan, là où il vous a appelé. De toute façon, on vient d'étudier le livre de Jonas. Et là, nous avons appris à quel point ça peut être dangereux de quitter le lieu où Dieu vous a appelé, n'est-ce pas? Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, sans étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, pour les indisciplinés, pour les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanes, les parricides, les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui, en outre, est opposé à la saine doctrine, d'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Première fausse doctrine à contrecarrer, c'est cette ténace doctrine fausse que le chrétien doit vivre sous la loi. En fait, pour devenir un chrétien, il faut passer par la loi. Il faut même être circoncis et suivre toute la loi de Moïse. Et ça revient sans cesse. Et Paul, il dit très explicitement, ces gens-là, ils veulent être des docteurs, vous impressionner avec tous leurs diplômes et toutes leurs connaissances, leur naissance et tout ça. Mais la loi a un but. Il y a quelque chose qu'on fait avec la loi. La loi est utilisée non pour le juste, mais pour l'injuste, pour qu'il sache qu'il est injuste, mais dans le but de l'Évangile. C'est-à-dire que pour celui qui est donc, vous avez une liste, indiscipliné, impie, pêcheur, homosexuel, débauché, vous avez tout, ils sont au même niveau là. Donc, on utilise donc la loi pour que ces gens-là comprennent les exigences de Dieu, la justice, la vérité de Dieu, qu'ils réalisent qui sont en réalité pécheurs, déchus de la grâce de Dieu et éloignés de la perfection de Dieu, et donc en route pour l'enfer. C'est ça que la loi nous fait. Ça nous revêt, ça nous choque, ça nous interpelle pour qu'on réalise qui nous sommes. Pas pour nous écraser. Là, non, c'est d'après le glorieux évangile qui est la bonne nouvelle. Non, la loi, c'est pour nous pousser vers le bras de celui qui nous sauve. Pour qu'une fois réalisé qui nous sommes, nous pouvons tourner vers celui qui peut nous sauver. Et si, donc, nous prenons quelqu'un qui est déjà dans la foi, déjà dans la lumière, et on l'accable avec la loi encore, il ne peut jamais connaître la liberté pour laquelle Jésus-Christ est mort. Quelque part, c'est comme on libère le captif et aussitôt on l'enchaîne. Or, cette personne a été libérée par le sang de notre Sauveur. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le prendre à la légère. Et sachant donc ceci, Paul, il nous parle donc de la solution. Il donne l'exhortation, il relève le problème. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui utilisent de façon très mal la loi. Et voici donc la solution. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde. Parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. Mais il m'a été fait miséricorde. Afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Roi des siècles immortels, invisible, seul Dieu, honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. Et voilà la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est savoir qui vous êtes, savoir qui est Jésus. Et regardez tout cet amour, cet émerveillement qu'il a. C'est comme il gratte la tête en disant, comment est-ce que ce Dieu si merveilleux, si beau, puisse penser à moi, me tirer de la boue comme ça, moi qui étais, il était blasphémateur, parce que il faisait il faisait les gens renier la foi. Il est forcé de le faire. Blasphémateur parce qu'il disait que Christ n'était pas le Christ, que Jésus n'était pas le Christ. Il était violent, il était meurtrier. Et puis, là, même s'il méritait la plus grande punition, Dieu lui a montré la plus grande grâce. Il a sauvé. Et le plus que nous avons peut-être fait du mal, le plus que la grâce nous enveloppe. Mais sachez que cette grâce n'est jamais épuisée, n'est jamais finie. Et le Seigneur va vous utiliser. Certes, il vaut mieux rester et commencer dans la foi et rester toute votre vie dans la foi. Ça, c'est le meilleur. Mais si vous avez fait des erreurs et vous n'avez pas vécu votre vie de ce niveau-là, la grâce de Dieu va vous accueillir et va vous couvrir et vous rendre capable de faire ce que vous n'imaginez pas, parce que Dieu est aussi bon que ça. Mais heureux soit-vous si vous n'avez pas traversé par aussi grande bêtise. En fait, En fait, la grâce de Dieu va vous protéger et vous couvrir aussi de votre orgueil. Et peut-être de votre lassitude de temps en temps. Mais si vous n'avez pas fait des grandes bêtises, bah, gloire à Dieu pour ça. Et ça ne fait que vous donner encore plus de capacité de faire de connaître un plus grand profondeur juste par le simple fait que vous avez connu votre Seigneur depuis longtemps. Mais dans les deux cas, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui vous couvre, qui vous bénisse et qui vous amène. Et c'est exactement ce que Paul dit. En fait, un véritable serviteur de Dieu, il prêche la grâce. Il est ému lorsqu'il pense à ce que Dieu a fait pour lui. Exactement comme Paul, il fait. Et ça, c'est pourquoi il ne peut pas s'empêcher, même s'il est en train de écrire une lettre, ben, il s'explose en louange, là. Ça, c'est aussi un bon signe. Ça, c'est la solution. Pas la louange. La louange, en fait, ça, c'est plutôt un symptôme. Ça, c'est plutôt le symptôme de la maladie. La maladie, c'est sauvé par la grâce. Et le symptôme, c'est la louange. Et ça, c'est exactement ce que Paul, il a vécu. Et donc, il est important que Timothée, il le sache. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard que Paul y mis ça à la première place. Non, c'est la couronne, en fait, de la bonne doctrine, la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'il commence là. Et c'est là où Timothée, il doit aussi commencer. Et c'est là aussi où on peut trouver le plus grand découragement face à ceux qui insistent sur la loi et sur les œuvres. La seule remède, c'est la grâce. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Deuxième exhortation, c'est de faire attention à ton appel. Timothée, il est parmi ceux qui sont privilégiés pour avoir eu l'expérience d'avoir des gens qui l'ont imposé des mains et qui ont prophétisé sur lui. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais lui, il a eu cette expérience. Et Paul, n'oublions pas, il a dit dans 1 Thessaloniciens donc de ne pas mépriser la parole de la prophétie. Il ne faut pas croire tout ce qu'on entend non plus. Mais on garde ces choses à cœur, on les met à l'épreuve. Mais je crois aussi que vous savez quand quelque chose est vrai. Il y a cette quand même ce témoignage de votre cœur aussi, votre cœur brûle, vous savez, est-ce que vous savez que c'est vrai? Ne méprisez pas ces choses, hein? N'oubliez pas ces choses. Restez calé sur ce que Dieu vous a dit. Et ça revient vers ce qu'il a dit d'abord. Le prophétie, en fait, sur Timothée était qu'il serait, donc, on pense, vu ce qu'on lit, qu'il sera quelqu'un qui enseigne la parole, un bon responsable de l'Église. Alors, il faut qu'il reste à son poste et qu'il enseigne jusqu'au bout. Il y a une autre chose aussi que je trouve un peu perturbant dans cette histoire, c'est que il dit que si tu le fais, tu combats le bon combat en gardant la foi d'une bonne conscience. Mais cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. C'est-à-dire, si vous désobéissez à Dieu, par exemple dans le contexte, en quittant votre appel, vous exposez au réel danger. Un appel est quelque chose de sérieux. C'est un peu difficile pour nous dans les systèmes, de démocratie. Hein? Parce que, en fait, il n'y a rien qui vous est vraiment obligé dans une démocratie. Pas comme quand c'était sur une monarchie. Quand le roi disait quelque chose, vous le faisiez ou bah, vous mourriez. Et Dieu n'est pas un président élu. Dieu est un roi. Et donc, quand il appelle, c'est quoi? C'est un ordre. On doit obéir. Certes, il lance une invitation. Et si vous le méprisez ou vous l'ignorez, parfois dans sa grâce, il vous appelle, il vous continue, et puis éventuellement, il appelle quelqu'un d'autre si vous vous obstinez à ce point-là. Mais je connais des pasteurs qui ont quitté leur lieu, leur appel, et ça s'est toujours terminé très très mal pour eux. Voyez, Dieu vous a appelé. Si vous a appelé dans le ministère, c'est parce que il savait que c'était le seul endroit au monde où vous serez réellement attaché à lui. Et c'est exactement ce que vous faut pour bénéficier de la meilleure relation avec lui. De la même manière que si vous n'êtes pas appelé à un ministère, entre guillemets, plein temps, mais que vous travaillez, entre guillemets, dans le monde, c'est parce que Dieu sait la même chose. Que c'est là où vous êtes appelé et que ça, c'est la meilleure place pour vous. Et il sait que c'est là où vous serez le mieux utilisé parce qu'il vous a créé ainsi et parce que c'est là où vous allez bénéficier de la meilleure relation possible. Il vous a appelé là-bas, là où c'est. Continuez donc. En ce qui concerne Hyménée et Alexandre, qui apparemment ont quitté leur appel et ont tombé dans les mauvaises doctrines, Paul, il est livre à Satan, et ça, c'est vraiment quelque chose d'effrayant. En fait, ce qu'il fait, c'est l'apôtre qui l'a fait. Hein. Eux, ils sont, si vous voulez, laissés dans le monde, mais toujours en espérance qu'il revient après avoir goûté et expérimenté les malheurs de ce monde. Mais toujours dans le but qu'il revienne. Ce n'est pas dans un contexte d'excommunier, comme on entend dans l'Église catholique, par exemple, ou dans l'Inquisition. Là, on espère vraiment les restaurer. Mais il faut qu'ils passent par des moments terribles. Et puis, il va plus loin dans l'Église et comment l'Église doit fonctionner. Et maintenant, il a une exhortation spécifique aux hommes et une exhortation spécifique aux femmes, mais dit à Timothée pour qu'il sache comment les églises doivent fonctionner. Qu'est-ce qu'il faut qu'il dise? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Voilà le verset clé de tout ce paragraphe. Je sais aussi que ces versets que nous venons de lire, ils ont aussi un côté qui parle à tout le monde. Je veux donc, à cause de tout ce que nous venons de lire, je veux que les hommes prient. Très important, parce que qui sont les moins nombreux à toutes les réunions de prière? Les hommes. C'est terrible, mais c'est la vérité. Les hommes, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire quelque chose. On aimerait mieux élever les mains en contestation. On ne veut pas prier. On veut plutôt parler de la politique. On ne veut pas prier pour le président. Les hommes, c'est vrai, je sais, je suis aussi capable, je sais de quoi je parle. Nous, les hommes, on aime faire quelque chose, faire bouger les choses. Très peu d'hommes veulent prier. Et ça, c'est pourquoi Paul, il dit, je veux donc que les hommes prient. Il faut qu'ils réunissent, il faut qu'ils viennent le mercredi matin à 7h pour la réunion de prière. Nous avons besoin de prier. Dieu nous a fait de façon à vouloir faire des choses et avoir la force de faire des choses. Et on peut très bien se tromper dans les bonnes grâces que Dieu nous a données en pensant que c'est à nous de faire. Non, il faut prier d'abord. Nous sommes dépendants sur Dieu, même plus que nous l'imaginons. Même le souffle qui est dans nos poumons, ça vient de lui. Et si la ville dans laquelle nous vivons, si il manque un peu de sécurité, si les magistrats et les responsables du gouvernement, il y a de l'impiété partout dans la ville, est-ce qu'il est possible, parce que les réunions de prière n'ont pas d'hommes? Il est important que nous prions. Et je suis le premier à avouer ma culpabilité face à ce manquement. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Que nous élevons nos mains, des mains pures. Sans colère, sans contestation, mais que nous apprenions à prier et que nous le fassions. Et qui sait ce que Dieu va faire? De même aussi, que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes. Comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Donc de même aussi, c'est-à-dire que c'est lié. Lié à quoi? Lié à l'exhortation des hommes de prier. Sachant qu'il a ordonné les hommes de prier, les femmes, elles prient, comme on a déjà souligné. Puisque c'est quelque chose qui paraît assez naturel et que les femmes, ça c'est... Enfin, une ministère, surtout si elles le font dans l'Église, devant l'Église, si elles prient par exemple, nous lisons dans le livre des Actes que les filles de Philippe étaient des prophétesses. Et nous lisons aussi en Luc qu'il y avait cette prophétesse Anna qui priait tout le temps dans le temple. Donc, nous savons que de cette manière, il y a donc une place pour beaucoup de choses qui se fait donc par les femmes au sein de l'Église. Mais le problème, c'est la modestie, c'est donc les apparences. Une bonne règle, c'est que habillez-vous afin que, après vous avez fait votre ministère, les gens s'en souviennent du Seigneur et pas de ce que vous avez porté. C'est ça ce qu'il dit, en fait. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de liberté. Paul, il n'est pas en train de dire, allez les femmes, arrêtez de faire les soldes et arrêtez de gaspiller tout cet argent sur votre apparence. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce qu'il dit. Mais dans le contexte d'Éphésiens, il y avait donc beaucoup de femmes qui étaient au service de Satan et donc leur apparence jouait beaucoup sur le culte qu'il rendait à Diane. Et donc, il utilisait des apparences indécentes dans leur louange à Diane. Ça, c'était leur culture. Ils l'ont vu, ils ont été élevés avec ça. Tout comme la culture ici est fait enfin, un peu pareil, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais dans notre apparence, nous pouvons dire des choses qui contredisent tout ce que nous voulons dire pour Christ. Et c'est ça ce qui est à éviter, tout simplement. Et ce n'est pas, et c'est vrai que ce n'est pas juste pour les femmes. Hein. C'est vrai que nous pouvons aussi voir des hommes, des pasteurs, voyez, dans le bel costume Armani, enfin bien habillé, et tout ce qu'on dit pendant, tout ce qu'ils font, c'est waouh, ça c'est bien habillé. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Et puis c'est la même chose. Encore, la règle, c'est que après que vous avez fait votre ministère, que les gens pensent au Seigneur et pas ce que vous avez porté. Puis il dit que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Alors, c'est là où nous avons une traduction qui peut très bien se traduire comme ça, qu'elle s'instruise en silence. Ou bien, ça peut aussi se traduire en qu'elle s'instruise en tranquillité ou même calmement. Pour ceci, pour choisir son mot, il faut peut-être savoir le contexte. Le contexte, c'est que déjà, pour qu'une femme s'instruise, c'était en fait une grande acquis. À cette époque, pour que les femmes viennent dans l'Église s'instruire avec les hommes, comme les hommes, était une grande avancée dans leur monde. C'est pour ça que je préfère plutôt tranquillement. C'est un peu comme toute personne qui utilise ses droits pour la première fois. Ils sont peut-être un peu bruyants, un peu désordonnés. C'est normal. Mais juste enfin, qu'elles soient tranquilles, mais qu'elles apprennent, qu'elles s'instruisent. Et j'aimerais bien insister sur le fait qu'elles s'instruisent. C'est ça le point. De nos jours, on fait l'accent sur le silence et on rate ce qu'il est en train de dire. Instruisez-vous. Je vois même aujourd'hui beaucoup de femmes qui ne veulent pas savoir. Elles ont peur de savoir des choses sur l'eschatologie ou peut-être des choses plus profondes, enfin, ce que dit la Bible. Instruisez-vous. Vous, il n'y a ni... En ce qui concerne le salut, il a dit en Galates, hein, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Dans les matières du salut, vous êtes au pied de l'égalité. Et donc, puisque avec 2000 ans de recul, donc il n'y a plus ce désordre, en fait, instruisez-vous. Et ne laissez pas l'ennemi ou les autres vous disent que c'est juste parce que vous êtes une femme que vous ne devez pas apprendre la Bible et connaître toutes les profondeurs. C'est pas biblique. En fait, si on regarde les grandes femmes de la Bible, notamment il y a Marie, elle avait une connaissance de la Bible assez importante. Analyser le chant qu'elle a chanté après avoir reçu donc cette révélation de Christ. elle cite beaucoup d'écritures. Pour une très jeune fille, elle connaissait bien sa Bible. Donc, instruisez-vous tranquillement. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alors, là encore, nous entrons dans le débat. Et en fait, pour ceux qui disent, bon, il y a deux, en fait, il y a deux grands points de vue majeurs. Premier point de vue, que extrême, c'est que les femmes n'ont aucune place dans la vie de l'Église. Deuxième église extrême, c'est que, en fait, non, tout ça c'est culturel et on n'en a plus. Et donc, où est-ce qu'on se trouve? Ben, je sais qu'il y a donc plusieurs opinions et il ne faut pas, dire que ni l'un ni l'autre est non biblique. Donc, il ne faut pas faire un contresens et dire des choses cassantes sur l'autre. Mais je dirais ceci, tout simplement, et j'essaie de dire tout simplement ce que dit le texte, je ne crois pas que ça soit une chose culturelle, que c'est simplement dans l'église d'Éphèse, parce qu'il y avait tout ce culte rendu à Diane et tout ça, et donc c'était seulement pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la femme s'instruise. Il n'a pas dit que les femmes à Éphèse, et il n'a pas dit que je ne permets pas que les femmes d'Éphèse n'enseignent pas. Or, dans le livre de Tite, il parle directement aux Crétois. Il dit une chose directement liée aux Crétois. Et Tite était donc envoyé à Crète. Deuxièmement, si nous revenons dans le texte originel, le grec, c'est bien traduit, c'est la femme. Donc, c'est ouverte. Et troisièmement, le raisonnement, ce n'est pas à cause de tout ce qui se passe en Éphèse, mais il renvoie donc à la création. Donc, avant que tout, la création, il dit. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et est-ce que ça veut dire que Ève est inférieure à Adam? Pas plus que Jésus est inférieur au Père. Mais il, pendant son ministère ici, il a dit plusieurs fois que donc il était soumis au Père pour faire sa volonté. Mais lui et le Père, ils sont un. C'est juste l'ordre des choses que Dieu, dans sa sagesse, il a fait. Et troisièmement, en ce qui concerne il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, je vous invite à regarder bien le contexte de ce verset. Le verset parle du salut. Or ici, on parle du fonctionnement de l'Église. Et si donc, ni grec, ni juif, ni homme, ni femme s'appliquait pour tout de façon générale, pourquoi il y a ce passage et pourquoi il y a aussi le passage en Éphésiens 5 qui parle de la même manière entre le mari et son épouse. Et aussi en 1 Corinthiens lorsqu'il parle de cette même chose. Donc, c'est pourquoi que j'adopte donc cette vision des choses. C'est que la femme n'est en aucun cas inférieure, mais que Dieu, il a donné un rôle à tout le monde. Et donc, ils disent tout simplement qu'elle ne soit pas donc à enseigner donc l'assemblée, les hommes, et qu'elle ne prend pas l'autorité sur elle. Et donc, puisqu'il parle donc de ça, il ajoute ce verset qui embête tout le monde, qui est très difficile à traduire. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie. On a du mal à croire qu'une femme est sauvée juste parce qu'elle enfante, surtout sachant qu'il y avait beaucoup de femmes absolument saintes, hein, absolument exemplaires dans tous les sens qui n'ont jamais eu d'enfant. Et encore plus, ça contredit pas mal la doctrine de la foi, enfin le salut par la foi, par la grâce. Alors, je pense qu'on peut facilement écarter ça. Non, je pense, là encore, ça aide parfois de revenir sur le grec, qui est chose étrange, hein. Il dit, en fait, par « elle sera néanmoins sauvée en devenant mère », en fait, c'est plutôt par l'enfantement ou par la naissance, singulier, la naissance. Et ce qui est formidable avec ça, c'est que la naissance en fait penser à Jésus. Et c'est ça qui donne un très bel équilibre entre ça avec le verset précédent. Certes, Ève a été séduite par le serpent. Adam, il a fait une plus grande transgression parce que il a mangé de sa bonne volonté. Ça, c'est la transgression. Mais Ève a donné naissance au Sauveur du monde. Pas Ève personnellement, mais une femme. Et donc, ça, c'est un grand héritage. Pas seulement ça. Mais personnellement, en ce qui concerne donc Timothée, l'héritage d'une mère qui croit et qui instruit ses enfants, c'est irremplaçable. Ne laissez pas la société ni le monde vous tromper en laissant le gouvernement, laissant le système de l'éducation nationale élever vos enfants. C'est intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas très longtemps, le président aussi faisait un critique pareil, aussi en parlant du rôle important des parents dans l'éducation des enfants. Il a raison. Les parents doivent élever leurs enfants. Surtout si nous connaissons la vérité. N'attendez pas que les autres, n'attendez pas que le monde inculque les bonnes valeurs ni la foi chrétienne à vos enfants, parce que ça ne se passera jamais. N'acceptez jamais le mensonge qui dise « Oh, je vais laisser les enfants choisir ce qu'ils font et puis on verra ce qu'ils vont faire. » Parce que ça, c'est déjà un choix. Vous avez choisi de laisser le monde les influencer alors qu'il habite sous votre toit. Et donc, je crois aussi, on peut dire, pas seulement pour les femmes, les hommes aussi. Et on va terminer là ce soir.